Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on va passer une magnifique émission ce 1er mai. Oui, on travaille, la fête du travail, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, profitez-en, ceux qui sont en touriste aujourd'hui, pour nous écouter pendant 2 heures. On va se détendre, on va passer un bon moment. Et puis surtout, on va lancer, on va revenir sur les matchs de Coupe d'Europe, forcément. Avec la défaite de Strasbourg hier, mais on va surtout lancer la 32e journée de championnat de Ligue 1. Oui, 32, il en reste plus que 3. Ça va vite.
Ça va vite, hein.
On est avec François Pinet. Salut François.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah François, tu tiens le coup.
Ah, je suis en pleine forme là.
Bon.
Je suis prêt à faire une deuxième semaine, mais je vais laisser ma place quand même à Benoît à partir de lundi.
À Benoît?
Oui, tu sais. Ouais. C'est qui c'est, Benoît?
Je sais pas s'il va revenir. Ouais, je sais pas s'il va revenir. Bon, on est bien accompagné. On est avec notre Corse national. Il est là. C'est Pascal Olmeta. Salut Pascal.
Salut Pascal. Ah, là, tu dis que je suis corse. Hier, c'était autre chose. Mais...
Ah non ouais. J'ai dit quoi?
Attends, demande à François Pine, il va te dire.
Écoute, Pascal, tu tombes bien, effectivement.
Il y a la VAR.
Il nous écoutait hier. La VAR. On a appelé la VAR.
Mais qu'est-ce que j'ai
arbitrage
dit?
Arbitrage vidéo. Réécoutez ce qui a été dit hier. Pascal, ton corse préféré?
Non, c'est Tony. Tony, il est dans la Corse. Il n'est pas en Sardaigne comme Pascal.
Pascal n'est pas un vrai corse, c'est ça? C'est ça que j'ai entendu.
Bah, je sais pas, moi, à Bastia, on m'a dit que.
Osez le redire.
À Bastia, on m'a dit que.
Les représailles vont être terribles.
Voilà.
Ouais. À Bastia, t'as dit quoi?
À Bastia, on m'a dit que dès que tu passes le col à Corté, c'est plus la Corse. Voilà.
Quel col? Tu as des enfants de partout, toi. Ouais. Quel col?
Le col.
Bon, on va rester sur la géographie.
Non, ça dépasse pas Corté.
Ah, puis tête de le petit blond. Ouais.
Ah, t'en vois pas Ajaccio quand même.
Non, ça va.
Bon, on est avec Pascal, on est avec notre dinosaure. Hein. On l'a sorti.
Back to back.
Incroyable. Ah ouais. C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Salut Captain. En pleine forme. Je suis en pleine forme.
Ça va, Pascal. Ça va, Pascal.
Salut Jean-Mi. Ça va.
Ouais,
ça va,
Jean-Mi. C'est mon corse préféré, toi.
Ouais, je le sais. C'est ça. Bisou Henriette. Hein.
Ouais.
Bon, alors, le programme de Roten sans flamme.
Elle est chouette.
Ah là, je pense que ça va être une très belle émission.
Ah, oui,
en
oui.
plus, on va avoir un spécial multiplex avec la 32e journée, tu l'as dit, la course à la Ligue des Champions au menu avec Lyon-Rennes à venir, ça sera dimanche. On parlera aussi du mea culpa de Pierre Sage, de Monaco aussi. Est-ce que la saison est déjà un échec? Ouais. On se posera cette question.
Président et propriétaire est descendu. Hein.
Exactement, ça c'est un signe. Ribolovlev, on sera avec Maxime Tillette pour en parler. Puis Strasbourg, tu l'as dit, qui s'est raté hier face au Rayo Vallecano, mais il y a un match retour la semaine prochaine. On parlera aussi de Nantes-OM, qui est au programme de cette 32e journée demain 15h, avec des Nantais qui peuvent être en Ligue 2 dès ce week-end. Procès à venir de Vahid Halilhodžić, qui n'a rien changé au FC Nantes depuis son arrivée. Ça sera dans 30 minutes.
Bon, Vahid, pas content.
Hein. Ouais. Mmh. Et dernier jour de la semaine pour remporter votre enceinte Milo T de Lexon. Bon, une enceinte que l'on peut transporter partout grâce à un mousqueton intégré. Pour remporter cette enceinte, eh bien, vous participez au quiz en appelant 3216, touche 4 ou quiz au 7 3216. Allez, tout de suite, on va prendre la direction de Marseille dans Roten sans flamme. Habib Bey a peut-être bien besoin d'un Pascal le grand frère pour gérer son groupe actuellement. Ah.
On envoie Pascal.
Ici, c'est Pascal Olmeta, vous n'allez pas vous emmerder.
Non, je suis très en colère aujourd'hui, vous le voyez.
C'est mon émission, c'est moi le chef.
Quand j'explique la façon qu'on a de voir notre travail, il parle trop, il nous enfume.
Ouais, tu peux demander à tes copines, hein. Allez.
Donc aujourd'hui, je vous donne le minimum.
On a passé une superbe première heure, elle est déjà à retrouver sur un podcast.
La tension et la pression dans un vestiaire, elle existe tout le temps.
Et c'était tellement clair, il parlait football, on bavait ses paroles.
J'ai l'impression quand même que certains, et je dis bien certains, manquent vraiment de déontologie journalistique.
Faites rêver nos enfants et arrêtez de nous casser les burnes.
À m'ennuie, c'est toujours un petit peu la même musique qui revient et j'ai l'impression que c'est très corrélé à ma présence.
C'est moi le philosophe de cette émission, c'est moi.
Aujourd'hui, la réalité est que je mérite exactement ce que j'ai.
On comprend rien.
J'ai rien volé, on me l'a donné et je le mérite.
Là, je crois qu'on va pas être champion.
Bravo pour l'interview.
C'est vrai que voilà, belle interview de Habib Bey par Pascal Olmeta.
C'est une exclue.
Ça, c'est un concept. Hein.
Ah ouais, c'est une
je pense qu'on va faire toutes les interviews avec Pascal Olmeta. Ça serait magnifique. On peut la retrouver en podcast.
En podcast.
Exactement. Tu peux la retrouver en podcast, Captain.
Pas de castez-vous.
L'OM qui a 3 matchs donc, pour tenter d'accrocher une place en Ligue des Champions. Ça sera à Nantes demain, au Havre ensuite et à domicile face à Rennes. Pour l'instant, Marseille est à 4 points de l'OL et de Lille qui occupent les 3e et 4e places. Ce week-end, en gros, si l'OM s'incline à Nantes et que Lille et Lyon s'imposent contre le Havre et Rennes, c'est possible. Il n'y aura pas de Ligue des Champions pour Marseille. Donc ça chauffe évidemment à l'OM. Comment on peut mobiliser un groupe où certains joueurs pensent peut-être déjà à leur avenir loin de l'OM à la fin de la saison? Est-ce que Bey a encore les clés? 32-16 pour nous rejoindre et puis le WhatsApp RMC 06-12-424-424. Avant de vous entendre, messieurs, on va accueillir Flo Germain qui est avec nous. Salut Flo.
Salut François. Salut les amis, salut à tous.
Il est là pour ce sprint final marseillais où Habib Bey doit forcément convaincre ses joueurs de rester mobilisés, Flo.
Oui, parce qu'il a senti son groupe, c'est vrai, très touché après OM Nice. Bon, on avait déjà eu des débats et des vraies interrogations sur l'implication de certains, notamment après Lorient OM, certains joueurs la tête ailleurs, peut-être à la Coupe du Monde ou à leur prochain club. L'attitude était quand même meilleure contre Nice et ce match nul en fin de match, le scénario, les retours qu'on a eu, c'est que on a un groupe qui a été très marqué. Alors au point de lâcher définitivement ou d'être démobilisé, bah écoutez, on a posé la question à Habib Bey.
Non, je ne pense pas, puisque j'ai vu que l'équipe a été capable de donner sur le match de Nice. On a vu un groupe qui était complètement impliqué, et donc j'ai pas du tout cette impression-là. Après, ce que les gens veulent construire, interpréter, ils sont maîtres de leurs propos, et je les laisse libres de leurs propos.
Oui, parce qu'il était un petit peu agacé, vous le savez, après les journalistes hier en conférence de presse, qui n'ont pas tout inventé non plus, notamment les tensions avec Imad Abdelli, parce que l'info toute chaude qu'on peut vous donner, c'est que Imad Abdelli n'est pas dans le groupe qui voyage à Nantes, donc pour la rencontre de Thauvin. Donc tout ça a les allures d'une sanction, en tout cas des suites des tensions et de ce coup de chaud avec Habib Bey après le match contre Nice. On rappelle qu'il lui a reproché son entrée en jeu, sa nonchalance et ce ballon perdu de manière un peu incompréhensible, c'est vrai, juste avant le pénalty accordé à Nice. Paichao et Guiri, eux, qui étaient un certain son du voyage. Et le discours, tu l'as dit François, il a été de secouer les troupes et surtout de leur faire prendre conscience que tout peut se passer lors des 3 dernières journées, parce qu'il y a des confrontations directes entre Lyon et Rennes, entre Monaco et Lille. Le Havre peut-être pourrait jouer un mauvais tour à Lille ce week-end parce qu'ils peuvent assurer leur maintien. Et puis il y aura OM Rennes en toute fin de saison. Donc voilà, essayer de faire un sans faute. Le staff se dit, si on fait 9 sur 9, on peut encore croire au podium. C'est pas le cas en tout cas de tout le monde à Marseille, notamment au sein du club, où on a la sensation que ce groupe n'est pas capable de faire 3 victoires sur 3 matchs, malgré des adversaires de moindre qualité, on va dire, en tout cas Nantes dès ce week-end.
Bon, merci beaucoup Flo, et donc cette information, effectivement, Abdelli pas dans le groupe, donc ce qui confirmerait peut-être ce qui s'est passé cette semaine dans le vestiaire dont vous a parlé. Est-ce que Bey a encore les clés, selon vous, 32-16, Jérôme? C'est vrai que, bon voilà, on comprend le discours du coach qui souhaite mobiliser ses troupes avant ces 3 matchs. Mmh. C'est sûr que c'est pas encore terminé totalement, même si ça va être compliqué.
Alors c'est quoi ta question? Est-ce qu'il a encore les clés
pour
remobiliser? Pourquoi, il les a déjà eu les clés? Je pense qu'il les cherche dès le premier jour de toute façon. Pour lui, arriver à Marseille, c'était tomber du ciel. Entraîneur de l'Olympique de Marseille avec si peu de repères et pour moi de compétences dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que à terme et dans un futur assez loin, il n'arrivera pas à changer sa façon d'entraîner et de gérer des groupes. Moi, le problème que j'ai avec Habib Bey, c'est que il y a eu l'épisode Rennes, Stade Rennais, et que je peux pas faire comme si ça avait pas existé. ce qui s'est passé à Rennes, ça se passe exactement la même chose à Marseille.
Ouais, quand il a pris Marseille, c'était déjà une équipe malade. Hein,
oui, c'est une équipe malade, mais c'est vrai qu'elle était malade, elle n'était pas septième. Et puis très souvent, on nous a dit ah ouais, mais le bilan comptable d'Habib Bey, il est bon, hein. Il a gagné, il s'est rapproché, il a même dépassé Lyon. Sauf que derrière, maintenant, ils sont à 4 points de Lyon, et c'est surtout Rennes. Rennes, ils étaient à 9 points derrière les Rennais quand Habib Bey a pris Marseille et que Francaise a pris Rennes, et aujourd'hui. Rennes a 3 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça montre encore une fois qu'ils se sont trompés sur toute la ligne en prenant Habib Bey entraîneur. Après, il peut dire ce qu'il veut, et Flo a raison. Il y a des choses qui se passent dans un vestiaire. Alors, ça doit des fois pas sortir. Des fois, c'est accentué parce qu'en effet, les journalistes ne sont pas à l'intérieur du vestiaire. Mais quand il y a des fuites, une deuxième fuite, une troisième fuite, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que je veux dire, il s'est passé quelque chose. La preuve, c'est qu'en plus de ça, il donne à manger à tous ses détracteurs en nous montrant qu'il prend pas Abdelli. Mais par contre, il nous dit non, il se passe pas, le groupe est soudé et tout ça. Mais il le prend pas, pourquoi? Parce qu'il est blessé lui aussi. Comme Greenwood était blessé,
c'est pareil vis-à-vis de son entrée en jeu.
Non, mais comme Greenwood était blessé, c'est pareil. On est obligé de le croire. Moi, excuse-moi, je le crois pas. Je le crois pas parce que il a menti quand il était à Rennes sur l'état du vestiaire et la relation avec certains joueurs. Il a continué à le faire avec Marseille parce que c'est peut-être sa façon de voir les choses. Pour moi, c'est pas la mienne. D'accord? Donc moi, je suis. J'ai des défauts, j'ai tout ce que tu veux, mais je suis quelqu'un franc du collier. D'accord? Donc si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et s'il y a des fuites parce que t'as fait le con à l'intérieur du vestiaire ou tu t'es chopé avec des joueurs qui ne te respectent pas, eh ben c'est pas grave, tu peux l'annoncer, tu peux le dire. Le problème, c'est que lui, il est rattrapé par sa communication parce que tout va dans son sens. Il parle bien, on l'a annoncé il y a quelques années, c'était un mec très important pour le football français parce qu'il parlait bien de football, il analysait bien les matchs. Je remets pas en question ses compétences de consultant. C'est pas ce que je dis. Mais là, t'es de l'autre côté, t'es entraîneur. Et entraîneur, ça t'amène autre chose. Et aujourd'hui, le fait de bien parler, ça ne suffit pas. Donc, vu que aujourd'hui, il se braque d'autant plus. En plus, il a même pas de recul pour se dire, bon, je me suis trompé là. Les joueurs, ça avance pas. Les résultats sont catastrophiques. Le public est énervé. On continue à prendre des claques et des claques, comme De Zerbi en prenait avec ce groupe. Donc, je suis un peu dépassé. D'accord. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il se braque. Et maintenant, il veut plus parler. Parce que, attention, les journalistes, quand ils posent des questions, il l'oblige pas à répondre comme il a répondu quand il a pris l'Olympique de Marseille, en nous expliquant le football, en nous expliquant que le stage à Marbella, c'était fantastique pour ressouder. Pour ressouder le groupe, pour mettre de l'intensité dans les séances à 5 journées de la fin. À tellement il y a eu de l'intensité, ils ont perdu à Lorient et ils ont fait match nul à l'arrache à domicile. Alors, mais arrêtez.
Oui, mais c'est facile de lui mettre tout sur le dos.
Non, mais moi, je lui mets pas tout sur le dos, mais il est responsable. C'est le chef d'orchestre au sujet de l'Olympique de Marseille. Oui, donc il a sa grande part de responsabilité. C'est lui qui met l'équipe en place. C'est lui qui veut la faire jouer comme ça. C'est lui-même qui a dit le vestiaire, il vit bien. Le vestiaire magnifique. J'ai des cadres. J'ai un capitaine. J'ai changé. Et Balerdi, c'est le patron de défense. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui. D'accord. Bon bah écoute, il a fait des choix. Les choix s'avèrent pas payants malheureusement pour lui. Donc il s'est trompé sur toute la ligne. Et juste, je finis parce que je suis trop long. Je donne la place à Jean-Michel et à Pascal. Mais je finis sur le bilan. Vous pouvez me dire, ils peuvent gagner les 3 derniers matchs. Ben bien sûr. Tu vas à Nantes, tu vas à Wavre et tu vas recevoir dernière journée Rennes. Tu peux prendre 9 points. Mais le problème, c'est que les équipes derrière. Tu crois que Lille, ils vont en perdre combien des matchs? Ils en perdent plus depuis. C'est l'équipe qui a pris le plus de points sur les 10 derniers matchs. Donc ils ont 2 victoires à faire. Ils jouent qui là ce week-end? Lille.
Lille. Ils jouent
le Havre à domicile. Oui. Oh, excuse-moi, qui a de grandes chances qu'ils gagnent. Lyon va recevoir Rennes. Rennes. Alors c'est un match pour le haut du tableau. Mais imagine si Lyon gagne. Lyon, il leur reste encore un match à domicile derrière, le dernier contre Lens, qui sera certainement démobilisé parce qu'ils penseront à la finale de la Coupe de France et ils seront assurés de finir deuxième et pas premier. Donc tu penses quoi, que Lyon, ils vont prendre qu'un point sur les 3 matchs? Donc s'ils prennent 6 points,
il peut pas leur dire non, c'est foutu, on abandonne.
Mais écoute, ils avaient qu'à gagner les matchs avant. Mais vous êtes des doux rêveurs. Vous pensez que en gagnant les 3 matchs, déjà, je suis même pas sûr, comme Jérôme, Flo, qui gagne, mais vous pensez que les équipes derrière, elles vont tous perdre d'un seul coup. Ils vont laisser Habib Bey et l'Olympique de Marseille finir 3e. Mais arrêtez, vous êtes des doux rêveurs. Je vous le dis.
4e.
Bon, Captain.
Non.
Ou Pascal.
Oui, mais.
Ou Captain. Captain.
Non, mais je suis. D'abord, je voulais savoir si Flo avait son diplôme de déontologie délivré par Habib Bey.
Ah, en plus, ouais.
Je sais pas. Il est parti, notre ami.
Non, et Flo, Flo, il avait. Non, il est parti. Il devait partir.
Mais quand tu veux être l'alpha et l'oméga d'un club, ce que revendique Habib Bey. À juste titre, il veut être partout et être décisionnaire surtout. À un moment donné, quand il y a des résultats, s'ils sont positifs, tu en es bénéficiaire, s'ils sont négatifs, et tu en es responsable. Mais François, c'est bizarre, on ne parle plus de ce stage à Marbella qui devait tout changer. À Marbella, on nous a présenté ça comme... La recette miracle, le remède miracle qui allait tout changer. Depuis qu'ils sont revenus de Marbella, il y a eu deux matchs, ils ont pris un point. Et contre des adversaires qui sont dans la deuxième partie du classement.
Pascal l'avait dit, ça, hein, Pascal, tu l'avais dit, un stage comme ça, en général.
Donc, et maintenant, mais qu'il parle ou qu'il ne parle pas, Habib Bey, c'est pas le problème de l'Olympique de Marseille. Le problème de Marseille, c'est pas que son entraîneur veuille donner des informations aux journalistes ou ne veuille pas donner des informations. Les supporters de l'OM et je dirais même nous-mêmes, on s'en moque, on s'en tamponne le coquillard. Les supporters de l'OM, ils veulent pas des discours. Ils ne veulent pas savoir s'ils ont bien mangé, s'ils ont mal mangé, s'ils ont bien dormi, s'ils ont mal dormi. Ils veulent gagner des matchs. Et malheureusement, le bilan est catastrophique pour l'entraîneur qui est à la tête de cette équipe. Qu'il gagne les trois matchs, c'est possible, tout est possible en football. On va dire que la dynamique ne leur est pas favorable. Mais c'est toujours pareil. Parler d'eux, c'est bien. Mais comme l'a dit Jérôme, il y a les autres qui ont fait un retour inespéré de moins 9, tu passes à plus 3.
Oui,
de moins
9,
tu places à plus 3.
Ah ouais, commenter.
Tu vas t'arrêter, tu vas leur ouvrir la porte.
Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis pas sûr qu'un autre entraîneur aurait fait mieux avec ce groupe-là. C'est ça que je suis.
Ce qui est certain, c'est que l'entraîneur précédent avait fait mieux.
Il avait fait mieux.
Non, mais,
exactement.
C'est pas. Non mais attention, les gars, c'est pas.
Mais
parce
on s'en fout de savoir si un autre entraîneur ou le.
Bah si, parce que c'est la question quand même.
Mais non.
Mais non.
Mais non. Mais non.
C'est un groupe démobilisé. C'est un groupe où il y a des joueurs qui sont déjà partis.
Arrête. Donc mais François, vous êtes extraordinaire. Là, je t'assure. Arrête. Arrête, Pim. François. Vous êtes extraordinaire.
Vous êtes en train de poser des hypothèses
qui n'ont aucune valeur.
Mais
François, on ne parle pas de ce qui aurait pu se passer. On parle de ce qui se passe. On s'en moque de ce qui aurait pu se passer puisque de toute façon on n'a pas la réponse. Si tu veux faire une émission rien qu'avec des non-réponses, ça va être quand même compliqué.
Bon, ça c'est vrai.
C'est vrai. Donc on parle de ce qui factuellement est la situation de l'Olympique de Marseille qui était troisième, qui était quatrième et qui aujourd'hui est septième. Voilà.
Non, mais tout simplement, je le dis, je le répète, les stages, c'était une grosse erreur. Tu peux pas de dire en ressous d'un groupe, c'est pas possible. Et chacun a son caractère. Déjà, il n'y a pas de fort caractère dans le vestiaire parce que tu le vois sur le terrain. Moi, seul que je vais regarder, que je vais parler, c'est Geronimo Rulli. C'est que les premiers matchs jusqu'à il y a un mois, deux mois en arrière, il était exceptionnel. Aujourd'hui, il fuit les ballons. Et ça veut tout dire. Quand ça veut dire que c'est pas parce que le coach actuel a joué à Marseille, adore l'OM, aime le maillot, ça veut pas dire qu'il va réussir.
Ah non, ça on est d'accord.
À Marseille, il faut quelqu'un qui soit respecté. Quand tu ne respectes pas l'entraîneur, que tu envoies ton porte-parole faire passer des messages parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses à l'arrivée à la commanderie. Et ça, ça va faire qu'il va te manquer les points pour jouer le haut du tableau. Et c'est très grave. Je crois que la page pour l'entraîneur s'est tournée. Si tu ne reprends pas, comme on dit chaque année, les choses en main, t'imagines qu'on devait être deuxième, voire troisième. On va se retrouver, parce que les trois matchs qui viennent, là, ils vont jouer avec quoi ? Les sandales, les claquettes.
Ouais.
Tu peux plus mettre des schémas tactiques sur le tableau et parler à l'un à l'autre parce que les joueurs te parlent plus, te respectent plus.
Ah c'est sûr, c'est fini.
C'est fini, c'est pas un autre club.
Mobiliser un groupe que tu as essayé de mobiliser à Marbella.
Non, c'est mort.
L'affaire n'a pas réussi. Mais on était tous d'accord. Sauf Benoît, qui pensait que.
Ouais, ah oui, ça allait servir à quelque chose.
Benoît, c'est le vrai, miracle allait arriver.
Ouais.
Mais aujourd'hui, ça va être compliqué avec des joueurs à qui tu dis que l'année prochaine, ils ne seront plus là déjà. Hein. Il y a là où. Tu as ouvert la porte.
De toute façon, on va prendre l'auditeur, Bertie. Mais pour te répondre, Jean-Michel, et aussi à Pascal, de toute façon, il y a juste à voir. Pascal, t'en parlais de l'attitude des joueurs. Dire quand tu peux avoir tous les beaux discours, l'entraîneur, le ceci, le cela. Non, mais tu vois les comportements sur le terrain, dans tous les cas. Et regarde juste l'exemple. Ton meilleur joueur, c'est qui ? C'est Greenwood. Ah, bah voilà, bah regarde comment tu le traites, Greenwood. Regarde l'attitude même qu'il a, Greenwood. Parce que si c'est un grand joueur, il est capable de faire des différences et il l'a fait. D'accord ? Et avec De Zerbi, il le faisait un peu plus qu'avec Habib Bey. Mais dans le comportement,
il nous a apporté quoi, Greenwood ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le comportement, Greenwood, s'il est à fond derrière l'entraîneur et il croit au discours de l'entraîneur, à ce que l'entraîneur met en place, je peux te dire qu'il fait beaucoup plus d'efforts. Et tu le vois.
Non, c'est pas un grand joueur s'il n'est pas capable de faire des efforts, quel que soit l'entraîneur.
Je veux dire, c'est pas une question de grand joueur, c'est une question que chacun, dans son rôle sur le terrain, doit en faire un peu plus. Et quand t'en as un qui le fait pas assez, t'en as un autre qui se pose la question de savoir si je vais jouer, si je vais pas jouer. Après, t'as les fameux discours, le recrutement au mercato d'hiver de tel ou tel joueur.
Est-ce qu'il a un match référence en Coupe d'Europe ?
Non. Greenwood ?
Rien.
J'aimerais qu'on prenne Bertie parce que il veut intervenir au 32-16, supporter de Marseille. Bertie. Salut Bertie.
Impose-toi. Impose-toi, Bertie.
Bonjour, messieurs, vous m'entendez ?
Vas-y, Bertie, t'as la parole.
Alors, bonjour, messieurs, monsieur Marquet, monsieur Olmeta, monsieur Roten et monsieur Pinet.
Voilà, c'est ça.
C'est bien.
C'est ça, Bertie.
J'essaye de faire dans l'ordre des titrés.
Voilà. Oui, bah moi j'ai quelques titres quand même, mais tu connais pas. Bon, c'est...
Ah, désolé, je suis finesse, désolé.
Bon, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ?
Bah écoutez, je pense qu'il y a les amateurs, il y a les pros, et je pense que je suis un amateur, parce que la dernière fois que j'étais passé, j'ai pas eu le temps de dire un premier mot, et M. Olmeta, il m'a dit, tu connais rien. Et je me suis fait un peu enchaîné. Et c'est vrai, et c'est la réalité, parce que je pensais que Marbella, ça allait les mettre bien. Et en fin de compte... rien du tout. Alors je sais pas, je pense que c'est le niveau des joueurs tout simplement. Déjà je disais que les joueurs étaient moyens, mais je pense vraiment que les joueurs sont très moyens. Et un joueur comme Greenwood, le problème c'est un peu le foot, c'est comme ça. Maintenant les joueurs ils ont pris beaucoup d'ampleur. Faut savoir d'où il est sorti ce garçon-là, je vais pas revenir là-dessus. On lui a quand même ouvert les portes, et il rend ça comme ça. Je dis pas qu'il a été mauvais sur toute la saison, hein. Mais l'attitude elle est pas bonne, comme dans beaucoup. Et je pense que les joueurs ils sont pas à la hauteur de l'Olympique de Marseille tout simplement.
Mais pour être à la hauteur, Bertie,
juste une question, Bertie. Lorsque De Zerbi a été débarqué ou lorsqu'il a démissionné, je connais pas exactement l'affaire. L'OM était encore dans le coup et vraiment dans le coup pour être en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, et les joueurs n'ont pas changé. Il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ne sont pas en faveur de l'Olympique de Marseille, ou en tout cas de la progression de l'Olympique de Marseille.
Il y aura peut-être. Franchement, je pense qu'on est tous pareils, on a tous des doutes par rapport à ça. Et ils ne sont pas du tout en confiance. Alors, est-ce que le discours. Bon, déjà, il faut que M. Habib Bey. Parce que moi, je trouve que c'est un bon coach.
Par rapport à quoi tu dis ça ?
Par rapport à quoi ?
C'est un bon coach par rapport à quoi ?
Je vais dire, si je dis ça, vous allez me dire sur Roten que.
Mais vas-y.
Encore par son bon discours.
Non mais dis-moi, pourquoi c'est un bon coach ?
Je pense que, je, pense que c'est un bon communicant et c'est un entraîneur entraînant. Je pense que il a des bonnes idées. Après, est-ce que les joueurs vont suivre ? Ça, je sais pas.
Mais Berti, tu regardes pas les matchs, c'est pas possible. Tu regardes pas les matchs de l'Olympique de Marseille, tu regardes pas les comportements des joueurs. Je sais pas. Quand tu dis l'entraîneur, il est entraînant. Bah, écoute, tu dois avoir une autre Jérôme. Attitude sur le terrain. Bah, je sais pas, moi.
Jérôme, t'as joué, t'as été professionnel. On t'a suivi. Il y a des fois où, est-ce qu'il y a des entraîneurs que t'es arrivé à suivre leur discours? Même s'ils étaient entraînants ou quoi que ce soit, si t'avais pas envie, comment tu faisais?
Mais comment c'est possible de pas avoir envie quand t'as un objectif qui est très clair? Quand tu rentres sur le terrain, quel que soit le professionnel, on parle d'une profession.
Mais quel que soit l'entraîneur. D'accord,
quel que soit l'entraîneur, quand tu rentres sur le terrain, c'est déjà exactement. Pour personnellement, individuellement, d'être le meilleur.
Bah, c'est ce que je te disais. D'accord. Sur Greenwood.
Donc,
pas attendre d'avoir donc, un entraîneur
non, attends. Justement, donner tous les joueurs à Marseille qui rentrent sur le terrain, j'ai pas un seul questionnement, une interrogation en disant, le mec, il a pas envie de gagner. Le mec, il a envie d'être bon, il a envie de gagner. Après, ça suffit pas, ça. Et donc, vu que ça suffit pas, c'est l'entraîneur qui a des idées, parce que ça reste un sport, quand même, où la tactique prend aussi le pas par moment sur autre chose, sur l'attitude, sur l'intensité, les courses, parce que ça, c'est les grands discours. Tu sais, quand le mec, il est pas bon, ah ouais, mais le mec, il moule pas le maillot. Ah, puis le mec, il est pas bon. Et puis le mec... et voilà. Non, mais ça, c'est les grands discours, et ça, c'est la facilité pour analyser une mauvaise perf. D'accord ? Mais la mauvaise perf, elle s'explique pas que par ça. C'est pas parce que le mec, il a pas envie de gagner, il a pas envie de courir, que le mec, il est pas bon. C'est juste un tout. Et l'entraîneur, en effet, s'il est entraînant, il arrive à te piquer individuellement et collectivement sur des détails qui te permettent, si tu veux, de rester, quel que soit l'adversaire, de rester
Jérôme,
un certain...
Jérôme,
après, on avance. Hein.
Oui, vas-y,
j'ai juste Jérôme.
Vas-y,
entraînant, c'est des phrases un peu toutes faites. J'ai connu toutes sortes d'entraîneurs dans ma carrière. Le dernier était muet. Avant les matchs et pendant les matchs, il disait pas grand-chose, Robbie. Et c'était un entraîneur qui nous préparait de manière exceptionnelle et donc qui nous faisait confiance. Et il y avait aussi peut-être des joueurs qui prenaient le relais de l'entraîneur.
Bah, c'est essentiel même.
Dès lors que le match commençait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'à vouloir prendre toute la lumière? Les joueurs qui seraient capables de faire ça du côté de l'Olympique de Marseille, ils le font.
Bon.
Où est-ce qu'ils sont éteints?
Ils le font pas.
Ils ont débranché la prise.
Robbie, pour les plus jeunes, c'est Robert Herbin, bien sûr, Robbie.
Ah, pardon.
Puis, tu sais, François, on finit là-dessus, mais le fait de bien parler. Alors, en effet, là, j'entendais Berti.
Mais faut pas
en
vouloir de ça.
Non, mais c'est pas le problème. C'est que c'est souvent la réflexion sur Habib Bey. Ah, bah oui, mais c'est un bon communicant. Mais tu sais que dans le vestiaire, on a été avec Pascal et Jean-Michel assis dans le vestiaire avec ton entraîneur.
Mais l'entraîneur,
quand il a un beau discours et que c'est un bon communicant, je peux te dire, au bout d'un moment, t'en as ras le cul. Je te le dis, désolé de l'expression. Tu te dis, mais tais-toi, c'est quoi? Mets-nous un truc en place qui va nous faire gagner. Mais c'est la vérité. Alors que là, vu que, comme l'a dit Jean-Michel, il veut prendre la lumière, il parle bien et tout ça, t'as des joueurs qui pourraient être le relais, ils ont pas envie de le faire. Ils disent, oh là là, tu sais quoi? Toi, tu parles trop bien.
Bon, allez, on va rester là-dessus. On vous remercie Berti d'être passé. Bien sûr, comme Berti, vous venez 32-16. Et puisqu'on parle de l'OM, on va parler de l'adversaire Nantes. C'est demain, Nantes-Marseille à 15h sur RMC. L'OM qui peut envoyer Nantes en Ligue 2 et justement on va faire le procès de Vahid Halilhodžić, accusé de n'avoir rien changé à Nantes depuis son arrivée. À tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est dans la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme. La première demi-heure était chaude, très chaude sur l'Olympique de Marseille.
Difficile de tenir la semaine.
On est avec François Pinet.
C'est le 1er mai.
On est avec Pascal Olmeta. Je vais te laisser faire les lancements parce que c'était très bien la dernière fois.
Jean-Michel Marquet. Il a été magnifique.
On est dans 10 minutes, le Halo Jérôme.
Justement, ça va être le moment de Pascal. Parce que Pascal, il va nous expliquer ce que c'est qu'être troisième gardien. Il a été en 92 lors de l'Euro et comme effectivement cette semaine on a appris qu'Hugo Lloris pourrait
pas gardien de but en 92
faire la Coupe du Monde à l'Euro 92 il était troisième gardien.
Mais t'es pas gardien de but. Ils t'ont pris pourquoi, Pascal?
Tu vas nous raconter tout ça.
Pour peindre les rambardes autour du stade.
Ça sera dans quelques instants. Voilà, vous restez avec nous. Mais d'abord, c'est le procès de Rotten sans flamme.
RMC, Roten sans flamme.
Ah, moi, en plus, ça a plus à régler. Je pense. Ça, c'est exceptionnel que je suis venu pour 2 mois.
Pour moi.
Je ne regrette pas du tout. On a donné pas mal d'énergie, on n'était pas récompensé. On n'est pas aussi nul qu'on certains ils l'ont montré.
Le procès de Roten sans flamme.
On n'est pas aussi nul que certains veulent le montrer. Vous avez entendu Vahid Halilhodžić dire avec un mois de plus, c'était réglé, il aurait sauvé sans doute le FC Nantes. C'est l'accusé du jour, coach Vahid, entraîneur de Nantes, accusé de ne rien avoir changé depuis son arrivée. Le FC Nantes qui peut être en Ligue 2 officiellement ce week-end s'il ne gagne pas contre l'OM et qu'Auxerre s'impose contre Angers.
C'est critique.
Monsieur le procureur Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Bonsoir. Ça, c'est trahison.
Les avocats de l'accusé, Maître Roten et Maître Olmeta. Bonsoir. Eh oui, avocat de Vahid, Jérôme Roten.
Le chèque doit être gros.
Coach,
ça c'est magnifique.
Coach Vahid, viens dans Roten sans flamme. Voilà. Viens, regarde. Je te tends la main.
Avocat de Vahid, Jérôme Roten. Incroyable. Voilà. Incroyable ce qui se passe dans cette émission.
C'est fou.
Le verdict avec le juge Patrick au 32-16. Bonsoir, monsieur le juge.
Bonsoir, monsieur.
Salut, Pat.
Dans un instant, le verdict, mais d'abord, donc, monsieur le procureur Larquet, pour vous, l'arrivée de Vahid n'a rien changé.
Ça va être rapide. D'abord, je pense que sa sortie est un peu une réponse au même discours que son président Valdemar Quita, qui a dit si je m'étais occupé de tout, ce serait formidable et on ne serait pas dans cette situation. Et, bon, pour un responsable, je croyais que c'était lui qui s'occupait de tout, donc il avait démissionné et je ne savais pas qu'on allait parler. Tout à l'heure, de ce qui aurait pu se passer si. Et donc, Vahid est en train d'évoquer quelque chose, il a le droit de le dire, on ne va pas lui couper la tête pour ça, de dire que s'il était arrivé un mois avant, c'eût été mieux. Ce que je constate, c'est que depuis qu'il est arrivé, Vahid, eh bien, les choses n'ont pas changé. Parfois, même contre des équipes qui replongent, parfois, dès le changement, il y a une victoire, comme ci, comme ça. Là, c'est le néant absolu, c'est le désert de Gobi. Je crois qu'il y a 2 matchs nuls.
Alors, je vais vous dire, je vais vous aider, monsieur le procureur.
Rames,
6 matchs, 3 points pris. Point pris contre Metz, effectivement 0-0, contre Auxerre 0-0 et contre Brest.
Alors, si tu veux, si le mois précédent, il avait fait même le double de ce qu'il fait, parce que là, il vient de prendre 3 points sur 18. Tu vois, et s'il en avait pris 6 sur 18, je pense que la situation était la même. Donc, j'accuse Vahid d'imaginer des choses que personne ne peut vérifier, même pas lui. Bon, déjà. Et puis, surtout, ce qui me gêne le plus dans cette affaire-là, c'est vis-à-vis de ceux qui l'ont précédé dans ce club-là, les 2 entraîneurs que je ne connais absolument pas. Pas davantage M. Castro, Luis Castro, que Ahmed Kantari. Mais quand tu parles comme ça, ça veut dire que ceux qui t'ont précédé, ils sont nuls, ils sont bons à rien. Et ça, ne serait-ce que pour ça, je trouve que Vahid aurait dû mettre un petit peu la pédale douce. Voilà.
Merci. Maître Roten, avocat de la défense.
Bon, c'est dur, hein. C'est dur de le défendre après le passage de Jean-Michel, parce que je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Michel. La seule chose que je peux noter quand même, et il faut le dire, je trouve qu'il y a eu ce fameux choc psychologique quand même dans la tête des joueurs. Il a réveillé un peu le vestiaire. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont de meilleure facture aujourd'hui depuis que Vahid est arrivé. Je trouve qu'il y a plus de solidité. Il se passe plus de choses dans le jeu du FC Nantes. Il se crée plus d'occasions. Pas moi qui le dis, hein. C'est tu regardes juste les stats depuis qu'il est arrivé. Alors en effet, le problème c'est que tu n'arrives pas à gagner. Mais est-ce que le fait de ne pas gagner, c'est que de la faute de Vahid? Je pense pas.
Je pense pas.
C'est pour ça que j'ai envie de le soutenir, parce que ce groupe a été fait d'une façon avec Castro en début d'année catastrophique. Du moins très vite, on a senti qu'ils étaient pas au niveau. C'est pas parce que tu fais confiance à des jeunes joueurs que d'un seul coup il faut laisser le temps au projet. Mais c'est des jeunes joueurs.
Jérôme, ça fait 4 ou 5 ans.
Non, mais c'est vrai. Tu as raison.
Effet de briques et de
bois. Tu as raison. Mais sauf que là, c'était vraiment à l'extrême. On a l'impression qu'avec Castro,
c'était la politique des jeunes. On a l'impression qu'on allait retrouver le jeu à la nantaise des années 90. Mais arrêtez, le jeu à la nantaise. Il y avait des jeunes joueurs à l'époque, mais t'as vu les joueurs que c'était. Techniquement, t'imagines des Reynald Pedros, des locaux, des Wedek, et puis j'en passe. Non. Et puis il y avait Makelele, il y avait Endoram. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'imagines la qualité qu'il y avait avant dans cette jeunesse et la jeunesse aujourd'hui. Moi, je veux pas leur tomber dessus, mais ils sont pas du tout au niveau de la Ligue 1. Et ça se trouve, ils le seront jamais au niveau de la Ligue 1, ces joueurs-là. Ils seront certainement la plupart dans des équipes qui jouent le maintien ou qui jouent en Ligue 2. Il y a pas de problème, voire en national pour certains, parce que c'est même inquiétant. Donc ce que je veux dire, t'en as un ou deux qui sort un peu du chapeau, mais je trouve quand même que Vahid a apporté quelque chose. Il faut le dire. Oui. Le truc, c'est que, en effet, quand tu parles, et là je suis d'accord aussi avec Jean-Michel, quand tu nous dis que si t'étais arrivé un mois avant, ça aurait été la révolution et t'aurais sauvé le club, ça non, Vahid, t'as eu l'occasion de gagner des matchs contre des équipes qui sont faibles. À Metz, t'as fait un non-match total, tu ne gagnes pas. À Auxerre, j'en parle même pas du match à Auxerre qui était une catastrophe sans nom.
Contre Brest,
tu vois, contre Brest. Non, mais après,
Rennes, c'était pas mal.
Il y a eu des matchs.
Tu es en train de le défendre là, de l'autre. Oui.
Mais je le défends. Pascal qui voulait défendre Vahid.
Ah merde, j'ai.
Vas-y, Pascal, parce que c'est plus fort que lui.
Non, moi je coach Vahid. Je respecte l'homme parce que je l'ai connu dans mes premiers matchs où Bastien jouait à Nantes, où je me suis chopé avec lui. Ah. Et l'homme avait et a toujours ce caractère. Et moi, c'est ce que j'aime, les hommes de caractère, parce que c'est vrai que s'il avait eu un peu plus de temps, c'est que si, hein, mais il le dit. C'est parce que lui, il a le courage, que ça soit tel ou tel joueur, de les choper à part, de les prendre dans le vestiaire et de leur dire ce qu'ils pensent.
Ah, ça, c'est autre chose.
Mais c'est ce qui fait la force d'un groupe. Et si le groupe, il y a du temps avec de travailler et non pas partir en stage au soleil, tu peux, il te manque ces deux ou trois points qui fait que tu t'en sors.
Voilà, non, il en manque plus que de points, malheureusement.
Non, mais je veux dire que c'est pas dans le calcul, parce que autrement, je pourrais parler de Bastia, il reste deux matchs et marquer des buts et c'est tout. Oui.
On fait le procès de Vahid, mais attention, ils sont pas encore en Ligue 2.
Ils peuvent être ce week-end.
Oui, mais
Auxerre peut gagner contre Angers.
Oui, mais Auxerre, ça fait un bout de temps qu'il gagne pas un match aussi.
Oui, je suis d'accord.
Et il reste à portée Tunisie.
Il y a encore trois matchs, effectivement.
C'est pas
encore
aussi. Si Nantes bat Marseille,
il est quand même un peu malade, hein.
Patrick.
Benoît Pine.
Non, c'est François Pinet.
Pense que les musiciens.
Je précise.
Pense que les musiciens les payent à la fin du bal, tant que c'est pas joué.
Tant que c'est pas mort. C'est pas
tant que c'est pas mort, c'est pas
ça,
mort.
C'était important de le dire. Monsieur Patrick, je juge.
Oui.
Au 32-7.
Ouais, Pat.
On t'écoute.
Alors, j'allais dire au départ, pendant un moment, victoire par KO de Jérôme. Alors, ce ne sera pas tout à fait par KO, parce que Jérôme a pris en référence des matchs comme Brest et Auxerre ou Nantes, a pas été spécialement mauvais, et l'a été contre Metz, on est bien d'accord. Par contre, j'engage Michel. Jean-Michel a regardé les matchs de Nantes sous Cantari, avec un entraîneur qui était nul.
Ah, oui.
Ça, il peut le dire, a eu le clamé haut et fort. Et si sur le plan comptable, Vahid n'a pas non plus des résultats extraordinaires. Quand on a regardé les matchs depuis le début de saison, et ceux sous Vahid, hormis Metz où ça a été archi nul, les contenus c'est quand même autre chose, les joueurs montrent autre chose. Et puis je pense que si Vahid avait eu peut-être été arrivé au moment où Cantari est venu, c'est-à-dire au mois de décembre 2025, je pense qu'il aurait sauvé Nantes. Par contre, le fait, je pense, hein, je dis bien
qu'est-ce
parce
que vous êtes
jamais...
fort, mais qu'est-ce que vous êtes.
Ah, mais moi je suis assez d'accord avec toi, Pat.
Toi aussi, Jean-Michel, t'es fort. T'avances des trucs, tu critiques. Est-ce que t'as vu les matchs de Nantes?
Mais il n'aime pas Vahid.
Est-ce que t'as vu les matchs? Pour voir les matchs, aussi, c'est pas le truc de dire, de voir des résumés.
Le problème est, Patrick, c'est que je reste sur ce qui est factuel. C'est qu'aujourd'hui, il a pris 3 points sur 18. J'en veux pas à Vahid. Je lui souhaite pas du mal à Vahid.
En plus, il est à la retraite.
Le FC Nantes, pour moi, est un excellent souvenir. C'est là que j'ai débuté ma carrière de footballeur professionnel, contre Nantes. Et Patrick, mon premier match, je l'ai joué à Nantes et j'en ai pris 5, Patrick.
C'était à Sopin.
À Sopin, j'en ai pris 5.
Eh oui, à Sopin. Bravo, Jean-Michel.
C'était dans une pyramide, non?
Non, mais c'était dans une autre époque. C'était un autre âge. Mais non.
Bon, donc
je veux bien qu'il joue un peu mieux. Il pouvait pas jouer plus mal.
Donc on a compris.
Faut regarder les matchs, Jean-Michel. Faut regarder les matchs.
Ouais, Patrick, il est là le problème. Je lui dis tous les jours. Je lui dis tous les jours.
Regardez les matchs. Regarde aussi le temps.
Jérôme et Pascal. Victoire de Jérôme et Pascal.
Le problème, c'est qu'il s'endort devant. Donc voilà, il veut les regarder, mais il tient pas juste au bout.
Je te confirme. Je te confirme.
De se faire tirer dans le tuyau.
Je te confirme. Confirmé qu'hier, à la mi-temps, j'ai déclaré forfait.
Ah ben on parle de ce match entre le Rayo Vallecano et Strasbourg.
Pourtant, il y avait Mika Landreau au bord terrain.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà, merci Patrick. Et Nantes-Marseille, on suivra ça demain à 15h. Restez avec nous parce que là, ça va être un grand moment. Grand moment à venir dans Rotten sans flamme avec le rôle de troisième gardien vu par Pascal Olmeta. C'est dans Allo Jérôme. C'est dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC. On est là, on est bien, on finit la première heure de Rotten sans flamme avant le 19h du vendredi soir en mode multiplex. On retrouve tous nos correspondants. On va se régaler avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet et avec François Pinet.
Ah, ça va être un grand moment.
Le Allo Jérôme, on n'est pas allé très loin.
Bon, on y va. Tiens, allez.
Il a envie.
RMC, Rotten sans flamme.
Je jouais avec Bastia, on était à Bordeaux. Et lui, il fallait qu'il gagne absolument. Et le mec, quoi, Raymond Domenech, plus, il y avait aussi Bernard Lacombe, sont venus jusque dans ma 18 mètres me dire, attends, vous jouez plus rien, laisse-nous gagner.
Ah ouais?
Ouais, ça s'était très mal passé, coup de poing général et tout. Et c'est pour ça que je l'ai jamais aimé, je vais pas l'aimer aujourd'hui.
Allô Jérôme.
Eh oui, parce que le Allô Jérôme, on s'est dit, en tout cas, Pascal s'est dit, j'ai envie de parler du rôle de troisième gardien.
Mais en plus, Raymond, il vient de m'envoyer un message, il m'a dit, c'est moi qui lui ai mis la droite.
Si le pense, ouais, c'est bien. Ouais.
Alors,
ouais.
Donc Pascal, tu voulais dire à Jérôme, tu voulais nous raconter un petit peu ce rôle de troisième gardien, parce que cette semaine, on en a beaucoup parlé en équipe de France. Il n'y a pas de troisième gardien, on ne sait pas qui ce sera. Lucas Chevalier s'est blessé, ça pourrait être Hugo Lloris. On va en parler avec vous, mais d'abord, tu voulais nous raconter ton expérience, toi, troisième gardien chez les Bleus. C'était Platini en 92 qui t'avait appelé pour faire l'Euro.
Ouais, je le remercierai jamais assez parce que pour une carrière de 20 ans, être Corse et il y avait à l'époque équipe de France et équipe de la France où je pensais avoir de temps en temps ma place dans l'équipe de France et je ne l'ai jamais eu. Et voilà, 92, Michel Platini m'appelle. Mais tout simplement, on se retrouve à Clairefontaine et là, avec une grosse équipe, et j'ai une pensée pour Bruno Martini aussi, qui nous a quittés. Il y avait aussi Rousset, le gardien de but.
Ouais.
Oui, Gilou, notre ami Gilou.
Ah, il était grand, lui.
Hein. Et voilà, et la première convocation, Platinoche.
Pas aimé,
Comment,
hein?
Comment?
Non, vas-y.
Non, première mise au vert là-bas. Et là, Platini me dit, Pascal, viens, il faut que je te parle. Il me dit, sache que je t'ai pris parce que tu le mérites, mais tu ne joueras pas. Tu fais partie des trois gardiens, tu es troisième gardien, mais je te demande qu'une chose, c'est d'apporter ta joie, d'apporter ton savoir, ta bonne humeur, aider les autres, rester s'il y a des attaquants qui veulent t'en mettre plein la gueule. Si vraiment il se passe quelque chose, sois prêt. Si tu veux aller boire un coup le soir, tu le peux, mais rentre pas trop tard. mais tu es là pour épauler Bruno et Gilou.
D'accord.
Et autrement, les choses, à partir du moment où elles sont claires, venant de Michel Platini, tu ne peux qu'avoir le respect et de te dire dans ta tête, tu ne joueras pas, mais on ne sait jamais. Et tu es là. Si les joueurs ont besoin de mettre en place, défensivement ou offensivement, tu es là, comme faisait, et je lui tire aussi mon chapeau, Alain Casanova, le gardien qui a toujours été second. Il a fait une carrière, il était pratiquement second. Il s'est jamais plaint, il était toujours là.
C'est là qu'il a été le meilleur.
Ouais, mais c'est des mecs qui sont comme ça extraordinaires. Aujourd'hui, j'entends, ben, Chevalier, il est blessé, ça y est, on l'a achevé, ben, ça tombe bien parce qu'il ne faut pas qu'il y aille. Non, Chevalier restera un, Pascal, et si ce n'est... Oui.
Pascal, aux entraînements, tu essayais quand même de démontrer que
d'être
tu
gardien ou
forcément le troisième, mais que tu pouvais instiller le doute dans la
non, tête du aucun sélectionneur doute. Ou non. Pas Non, aucun doute. J'étais là, je travaillais, je restais Platino, je frappais des coups francs où il n'en a jamais marqué un. J'avais des ailes qui poussaient dans le fion. Mais non, les choses étaient claires. Et non. Au contraire, je nettoyais les lunettes du Bruno Martini pour qu'il voie mieux son livre. Non, c'était pas donné à tout le monde. J'étais heureux d'être là parce que je n'avais jamais été appelé avant. Et pourtant, je pense que je pouvais le mériter, sachant le PLM que j'avais fait, Paris, Lyon, Marseille, les grands clubs. Ouais. Mais c'était un honneur. Et ça s'est passé comme ça s'était passé. À côté de moi, j'avais Eric Cantona, j'avais Didier Deschamps, j'avais de très grands joueurs.
Non, mais moi, je te remercierai jamais assez parce qu'en 92, j'étais à Clairefontaine, j'étais gamin, j'avais 14 ans, moi. Donc, tu sais, de 13 ans à 15 ans, j'étais à l'INEF Clairefontaine, ouais, donc on les voyait. S'entraîner, hein, les joueurs de l'équipe de France, préparer donc à Clairefontaine l'Euro. Et donc moi j'étais là et Pascal tous les matins à 7h. En fait, nous on partait en quart au collège. Pascal tondait les terrains et franchement il le faisait super bien. Donc
tant que j'étais pas tondu le cul.
Je savais pas où il voulait en venir, j'avais un peu peur.
Pascal, blague à part. Moi j'ai une question. J'ai une question pour toi parce que bien sûr que ce poste de numéro 3, si tu l'as pas vécu, c'est difficile de se mettre à votre place. Là on parle du Golioris. Pourquoi pas le retour? Est-ce que tu trouves ça logique ou non. Après ouais, vas-y.
Alors qui se
non,
serait
non, non.
Qui
non se parce que ben tu peux prendre il y a le gars, bon, je pense que Chevalier va y être, mais après en fonction de sa blessure. Mais après tu peux prendre Guillaume Rest, tu peux prendre il y a trois ou quatre jeunes qui sont
il y a Butès qui joue à Com là.
Butès qui fait le saison extraordinaire. Voilà, tu sais que devant tu as le numéro 1 Mac Maignan et puis après tu as Samba. Ouais. Tu sais que le troisième voilà, Hugo Lloris, il a arrêté. Laissez-le tranquille, il a arrêté, tu vas pas le rappeler.
Lui a donné son accord, c'est pour ça que
stop. Prenez Guillaume Rest.
Pascal,
ça me paraît logique.
Je rappelle, en préparant la mission, parce que moi je prépare l'émission contrairement à toi.
Moi non.
Et je rappelais une anecdote. Ma première Coupe du Monde en tant que consultant, c'était en 82 en Espagne. Et Michel Hidalgo était parti avec Dominique Baratelli, Jean Castaneda, et le troisième s'appelait Jean-Luc Ettori.
Ettori.
Et à la surprise générale, celui qui a fait toute la Coupe du Monde, sauf le match pour la troisième, pour la finale, c'est Jean-Luc Ettori. Donc c'est pour ça que je te posais la question de savoir si toi, ça t'avait à un moment ou un autre effleuré un peu l'esprit.
Non, parce que les choses étaient claires. Dès le premier jour, Platinoche m'a dit, Pascal, tu es là, tu es numéro 3, tu ne joueras pas. Ne va pas mettre la pression, parce qu'il me connaissait, mon caractère de pousser. Les taureaux, si je pouvais en choper un, je le cassais en deux. Mais non, quand les choses sont claires, ça l'est aujourd'hui. Voilà, on a les deux, pour moi, deux gardiens exceptionnels devant. Lucas Chevalier n'y est pas, prenez un jeune.
On a compris que tu n'étais pas fan du retour de Hugo Lloris. Voilà.
Ben non, il y a un temps pour tout. Il a dit qu'il a mis un arrêt à sa carrière sur les couleurs de.
En 2022, c'était.
Non, mais il faut respecter ça, t'as raison.
Alors, après, mais faites plaisir à des jeunes qui jouent et qui sont bons.
Ça peut leur donner en plus un coup de boost dans leur carrière aussi. Parce que, comme tu l'as dit, le numéro 3, il a très peu de chances de jouer. Très peu de chances de jouer.
Ouais,
Donc c'est juste être là, accompagner les joueurs, déjà les deux gardiens qui sont au-dessus de toi, et puis surtout rester aussi après les séances quand les attaquants ils veulent frapper.
J'ai un message pour Didier, je suis là s'il veut, il n'y a pas de problème.
Bah voilà.
Je sais que je jouerai
candidature.
Pas, j'y
vais, hein. Candidature, Pascal Olmeta. Candidature libre. Voilà. Il a le droit, pourquoi
pas. Il y a Franck Raviot qui est là, sinon entraîneur des gardiens. Il a été entraîneur en... Non, il a joué.
Bon,
en tout cas, voilà, candidature. Candidature spontanée.
Ça, c'est au-dessus de tes forces.
Pascal Olmeta pour l'équipe de France. Moi, je suis sûr qu'avec Pascal, on n'aurait pas encaissé deux buts contre le Danemark en 92. Moi, je m'en souviens, la défaite contre le Danemark 2-1 en 92. Avec Pascal, on les prend pas.
Les buts contre
le Danemark.
Il n'y a pas que la France qui a encaissé des buts en 92. Il y en a d'autres qui ont encaissé des buts.
Oui, c'est sûr, bien sûr. Bon. Merci Pascal pour toutes ces anecdotes. Voilà,
merci Pascal.
C'est ça aussi la force de Rotten sans flamme. On a des consultants qui ont vécu plein de choses. Le multiplex dans
Après,
un instant.
Après, je peux vous raconter d'autres choses.
Non, voilà, ça va. 32e journée.
Vous allez nous parler des clochettes du premier match.
Non, c'est bon.
Est-ce que tu as quitté le groupe de temps en temps pour aller boire un coup, vu qu'il t'a donné l'autorisation?
Il nous dira ça de plus
tard. Oui. Comment ça s'est terminé? C'était un endroit où il fallait pour pouvoir dormir parce que le soleil se couchait pas. Mettre les rideaux, les draps sur les fenêtres pour cacher la lumière. Bon, après j'étais allé au pub à côté. J'en ai chopé deux ou trois.
Ils étaient blondes.
Dans un instant, on va faire le multiplex tant attendu pour cette 32e journée avec énormément d'enjeux. On va à Lens, on va à Rennes, on va à Monaco et on reviendra sur la défaite de Strasbourg face au Rayo Vallecano dans un instant. Restez avec nous sur RMC dans Rotten sans flamme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.